à tous. Au micro, Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom. Chers auditeurs, avant la création d'Israël en 1948, il y a eu la tenue du premier congrès sioniste mondial organisé par Theodor Herzl à Bâle en 1897. Depuis, cette vénérable institution fait de moins en moins parler d'elle lorsqu'elle se réunit régulièrement à Jérusalem pour débattre et prendre des décisions. Mais surprise, au mois d'avril dernier, le congrès sioniste mondial a repris le devant de la scène politique et médiatique. Les échanges entre les 750 délégués du monde entier ont été houleux. Et finalement, un vote majoritaire a été pris en faveur de décisions qui s'opposent à celles du gouvernement d'Israël menées par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il s'agit là d'un événement tout à fait inédit. Les membres du Congrès sioniste ont adopté des résolutions libérales et progressistes, dont une qui critique la réforme judiciaire prévue pour le pays et qui mobilise contre elle des centaines de milliers de citoyens israéliens depuis 22 semaines. Mais alors, que s'est-il vraiment passé à Jérusalem au dernier congrès sioniste mondial ? Nous allons le demander à notre invité Alain Tzion Grabartz, qui a participé activement à cette grande convention. Alain Tzion Grabartz a fait ses études au Tertion de Haïfa. Depuis toujours, il est proche des mouvements de jeunesse juifs, en particulier de l'Hachemer Hatzair et du mouvement des Kibbutzim. À ce titre, il est membre du bureau exécutif du CRIF depuis 2016 et membre du comité directeur du Congrès sioniste mondial en tant que délégué du parti Meretz. Vous êtes là, Alain Tzion.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, bienvenue sur notre antenne, sur Radio Shalom, Chronique pour la paix. Et la première question, expliquez d'abord à nos auditeurs ce qu'est le Congrès sioniste mondial, à quoi il sert, quand il se réunit, qui y participe et comment sont prises les décisions.
Bien, alors avant tout, c'est que vous l'avez rappelé aussi, pas d'Israël sans Congrès sioniste. Parce que avant tout, ce qui a mis les bases de la création de l'État d'Israël, c'est des Congrès sionistes réunis à Bâle pour la première fois par Theodor Herzl en 1897. C'est effectivement ce congrès qui a permis de créer les bases politiques du mouvement sioniste et donc de créer des institutions qui vont avec. Parmi ces institutions, il y a l'agence juive et le KKL, le fonds national juif, qui est en charge de l'achat des terres en Israël. Et pendant la période qui a été entre 1920 et la création de l'État d'Israël, c'est la direction du Congrès sioniste qui était le gouvernement fantôme, le gouvernement non officiel du mouvement sioniste auprès des autorités britanniques.
Le Yishuv, effectivement.
Qui représentait le Yishuv auprès des autorités britanniques qui avaient en charge le mandat sur la Palestine.
D'accord.
Aujourd'hui, le Congrès sioniste se réunit donc tous les 5 ans. On a eu 2015, dernières élections en 2020. Et entre deux sessions du Congrès sioniste, il y a normalement les sessions du Varad HaPoel, du comité exécutif du Congrès sioniste. Le Congrès sioniste, c'est 750 délégués. Le Varad HaPoel, le comité exécutif, c'est un cinquième de ces délégués, c'est-à-dire un peu plus de 120 délégués, 130 délégués.
D'accord.
Ces 130 délégués sont essentiellement des délégués d'organisations politiques liées au mouvement sioniste, avant tout des délégués venant d'Israël, qui sont proportionnellement en fonction des élus de la Knesset au moment de l'établissement du Congrès. Donc, l'actuel Congrès est sur la base des élus de la Knesset en 2020. Et après les autres délégués viennent des pays dans lesquels il y a une fédération sioniste. En France, nous avons donc une fédération sioniste et nous envoyons 23 délégués.
D'accord.
Okay. Évidemment, le plus gros des délégués vient des États-Unis.
Oui, d'accord. Et alors, Tzion, dites-moi, les décisions du Congrès sioniste mondial, est-ce qu'elles ont un impact concret, je dis bien concret, sur le gouvernement et l'État d'Israël, ou est-ce que c'est matériel ou est-ce que c'est seulement moral ?
Avant tout, le gouvernement de l'État d'Israël est issu des élections. Donc évidemment, les décisions de ce gouvernement sont issues de ce qu'il y a du rapport de force à la Knesset. Néanmoins, comme je l'ai rappelé, le Congrès sioniste a perdu son importance dans les institutions israéliennes. Le Congrès sioniste appartient à ce qu'on appelle les institutions nationales, Amosdot Aleumim. C'est-à-dire que ce sont des institutions qui, sans être des institutions étatiques, sont para-étatiques et travaillent sur certains plan avec le gouvernement israélien, quel qu'il soit, évidemment. Je pense normalement au notamment au KKL, à l'agence juive, tout ce qui est le processus d'intégration et de l'ALIA.
Il y a donc des budgets, alors.
Voilà, il y a donc des budgets que le congressionniste, par l'intermédiaire du KKL, de l'agence juive et d'autres organismes, utilise pour la formation, pour l'ALIA, pour l'établissement des nouveaux immigrants, par exemple avec le KKL. Et donc les budgets qui sont votés dans ces institutions et qui sont en fait votés par le congressionniste ont une importance sur le plan politique. Les résolutions elles-mêmes telles qu'elles sont prises au congressionniste donc n'ont pas directement, on va dire, une influence sur ce que va faire le gouvernement israélien. Néanmoins, puisque les institutions sionistes participent à la politique de l'État d'Israël, il y a quand même une influence. D'autant plus que le congressionniste représente une voix importante de la diaspora, et notamment celle qui est le plus attachée par définition à l'État d'Israël, et c'est le congressionniste, et il est difficile pour le gouvernement israélien de ne pas en tenir compte.
D'accord, c'est très clair. Alors, Alain-Étienne Grimbart, dites-nous pourquoi ce dernier congressionniste a fait parler de lui, parce qu'en général, à part les initiés, on en entend parler plus ou moins. En quoi est-il été différent des autres congrès? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres congrès? Pourquoi ça a été tellement médiatisé?
Alors, on va peut-être reprendre la phrase de, comment dire, professeur, Manishtana des Congrès Azé.
Manishtana des Congrès Azé.
Congrès Azé. Alors, d'abord, c'est pas la première fois que le Congrès s'est parlé de lui. Alors, par exemple, en 2015, l'ouverture du congressionniste avait fait parler, il y avait eu des articles dans la presse israélienne, même dans la presse étrangère. Pourquoi? Parce que d'habitude, le congressionniste a un discours d'ouverture fait par le premier ministre de l'État d'Israël. Et en 2015, le premier ministre était déjà Benjamin Netanyahou. Et il s'est lancé dans un discours dans lequel, globalement, il révisait un peu l'histoire en disant que c'était le grand moufti de Jérusalem qui avait raconté à Hitler qu'il fallait exterminer les Juifs. Comme si
Hitler
avait besoin de ça. Tout à fait. Donc, effectivement, devant cette bévue, quand je l'ai entendu moi-même, j'ai eu du mal à croire ce que j'avais entendu. Hein. Je ne pouvais pas penser que le premier ministre de l'État d'Israël raconterait une bêtise comme celle-ci. Donc, il a dû faire un rétropédalage. Et ça avait donné lieu à des articles dans la presse israélienne. Le congrès actuel, donc, qui a été en 2020, mais qui, en raison de la pandémie, a eu des problèmes à se réunir normalement, comme il convient. En fait, cette année, en 2023, c'est la première fois qu'on réunit le Congrès vraiment depuis son élection en 2020. C'est pour ça que tous les délégués étaient là, alors que normalement, ça devrait être uniquement ceux du comité exécutif.
C'était un comité après Covid.
Voilà, c'était vraiment le premier congrès après Covid. C'est pour ça que, de manière exceptionnelle, tous les congressistes, c'est-à-dire les 750 et non plus seulement 130, 140, étaient présents. Et donc, il y a eu des discussions sur des résolutions, 27 résolutions, une par, disons, parti politique, une par faction politique. Certaines résolutions portaient sur la situation aujourd'hui en Israël. C'est ce qui explique pourquoi le congrès, on le savait déjà avant son début, qu'il allait être tendu. Pourquoi? Parce que la politique... La situation politique en Israël actuellement est assez tendue, notamment en raison des volontés de modifier certaines choses dans l'état de droit par le gouvernement actuel, pas seulement dans l'état de droit, mais aussi dans ce qui concerne la loi du retour et la relation avec la diaspora. Et donc cela a donné des résolutions qui ont été déposées et sur lesquelles nous avons débattu, qui ont été extrêmement vives sur le plan politique.
Il y avait des oppositions.
Ah, tout à fait. Moi, j'étais dans... Les résolutions sont discutées d'abord en commission. Moi, j'étais dans la commission numéro 3, qui a duré le plus longtemps. Parce qu'on a commencé sur les trois résolutions. Nous avions d'abord la résolution déposée par le mouvement juif libéral mondial, qui était sur rappeler qu'Israël doit rester un État juif et démocratique.
D'accord.
Et évidemment, ça a été de longues discussions et les représentants de Likoud ont essayé de batailler contre cette résolution. On avait aussi dans cette commission une résolution sur, venant des orthodoxes, sur l'implication plus grande des synagogues et des centres communautaires dans l'éducation des jeunes, etc. On a eu là aussi des débats. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ambiguïté sur le terme de rabbanot. Est-ce qu'il voulait dire des femmes rabbins ou des femmes de rabbins? Voilà. Donc il y a eu tout un débat. Il y a eu d'autres résolutions dans d'autres commissions. Alors pour le Meretz, nous avons déposé une résolution concernant l'inclusion plus importante de la population LGBT dans les institutions du mouvement sioniste. Et surtout, il y a une résolution déposée par le mouvement Ma Sortie qui concernait le problème de la loi du retour et demandait au gouvernement israélien de ne pas modifier cette loi du retour comme le voudraient les partenaires de la coalition qui sont du mouvement ultra-orthodoxe.
Oui, qui veulent que ce soit beaucoup plus restrictif.
Voilà, qui voudrait effectivement être plus restrictif, ne donner de la définition de qui est juif que leur définition, ce qui voudrait dire que finalement, le mouvement sioniste serait restreint totalement dans son objectif, c'est-à-dire créer un État juif et démocratique et être un havre de protection pour les juifs, quels qu'ils soient. Mm-hmm. Quels qu'ils soient. Et là, avec la résolution que voulait faire passer la loi que veut faire passer le mouvement ultra-orthodoxe, ça réduisait qui est juif. Mais il faut se rappeler quand même que les antisémites, ils ne vont pas dans ces arguties, hein. Donc c'est pour ça que l'État d'Israël, par l'intermédiaire du mouvement sioniste, a vocation à protéger tous les juifs.
Alors dites-moi, pourquoi toute la presse israélienne, presse juive francophone, presse internationale, a-t-elle dit que les décisions étaient libérales et progressistes? Alors vous nous avez dit sur les LGBT, vous nous avez dit pour préserver la loi du retour, une loi du retour ouverte et garantissant à tous les juifs la possibilité de revenir en Israël, sans limiter les choses. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Parce que je crois...
Ce sont les résolutions, je pense, les plus symboliques dont je vous ai parlé. Il faut voir que dans le congrès sioniste, il n'y a pas que des organisations politiques. Il y a aussi des grandes organisations non politiques, qui sont la VISO, Adassa, le Nébrit, qui sont là, et qui sont en général, je ne dirais pas neutres, mais assez légitimistes. Mm-hmm. Non disons qu'ils sont en général dans un consensus assez global, qu'elles ne s'engagent pas sur le plan politique. Habituellement, quand il y a des résolutions qui touchent vraiment à la politique, elles s'abstiennent. Vraiment. D'accord. C'est plutôt ça. Cette année, nous avons assisté à quelque chose d'assez surprenant. Et nous-mêmes, le bloc progressiste qui est constitué par le mouvement juif libéral, les Ma Sortie, le Meretz, Avoda et d'autres organisations centre-gauche, Yesh Atid, voilà, nous avons tous été un peu surpris d'une chose, c'est que à l'issue du travail en commission, la majorité en faveur des résolutions assez progressistes a été extrêmement forte, beaucoup plus que ce qu'on attendait.
Ah d'accord, il y a eu un large consensus pour ces décisions-là.
Tout à fait. Pourquoi? Parce que les grandes organisations non politiques dont j'ai évoqué le nom sont généralement américaines. Mm-hmm. Les membres sont majoritairement américains. Or, les décisions que veut prendre ce gouvernement, notamment sur la loi du retour, c'est-à-dire exclure petit à petit le monde libéral, le monde juif libéral, ou aussi sur l'État juif démocratique, d'accord, affecte beaucoup le monde américain. Voilà. Avec beaucoup de monde américain qui est un monde libéral dans tous les sens du terme, à savoir très attaché à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs, mais aussi le monde juif américain est majoritairement composé de juifs libéraux. Donc ces juifs seraient exclus de la loi de retour et donc de fait des bienfaits du mouvement sioniste. Donc nous en avons conclu, et c'est par les discussions que nous avons eues, c'est que les grandes organisations non politiques ont voté avec le bloc progressiste en faveur de résolutions qui rappellent que Israël doit rester un État juif démocratique, attaché à l'État droit et ouvert à tous les juifs, quel que soit leur courant dans le monde juif.
D'accord.
Voilà, mais ça, ça n'a pas été simple. Hein. Il y a eu des débats extrêmement houleux. Moi-même, j'étais dans ma commission avec des leaders du mouvement Likoud francophone, ce qui n'est pas le plus facile.
Je vois à qui vous faites allusion.
Voilà, tout à fait. Et donc, il y a eu des débats assez houleux, aussi en plénière, en assemblée plénière pour le vote final des décisions, qui n'a pas eu lieu au moment du congrès sioniste. Pourquoi? Parce que pour des raisons juridiques, le Likoud et les orthodoxes qui ont été finalement mis en minorité sur ce congrès ont essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vote. Finalement, il y a eu un vote, mais de manière électronique, qui a eu lieu la semaine dernière, et il a confirmé tout à fait ce que nous savions du travail en commission, à savoir que les résolutions qui condamnent l'actuelle volonté politique du gouvernement israélien sont sont passés avec des majorités extrêmement importantes, ce qui est quand même un message important venant de la diaspora, et surtout d'une diaspora qui est très attachée au mouvement sioniste, puisqu'elle est néo-congressionniste.
Oui, surtout les Américains. Alors, une dernière question, il nous reste 3 minutes, c'est vraiment, on arrive au bout, là. Quel impact va avoir les décisions du Congrès sioniste mondial sur le gouvernement de Netanyahou? Quel impact peut-il avoir? Est-ce que vous, déjà, vous avez vous avez des répercussions? Est-ce que vous avez dit... et surtout, je sais qu'il y a eu une motion contre le projet de loi de réforme de la justice en Israël, celle qui mobilise tellement de citoyens israéliens contre. J'ai vu qu'il y avait eu il y a une motion comme ça qui dit c'est une erreur, quoi, voilà. Alors, comment ça a été pris là-bas, au gouvernement, là-bas, voilà.
Tout d'abord, c'est très intéressant, aucun membre du gouvernement n'était à ce congrès. Il y en a un qui est venu, mais il s'est fait conspuer. Et encore, il n'est pas venu très, très officiellement. Donc, dans ce gouvernement, ils ont bien senti qu'ils n'étaient pas en odeur de sainteté, je peux utiliser cette expression, pour un congressionniste.
C'est un peu embêtant, quand même.
Voilà. Oui, mais très franchement, il apparaissait devant la plupart des membres du Congrès sioniste que ce gouvernement mène une politique qui divise la diaspora, mène une politique qui divise l'État d'Israël et qui a tendance à l'isoler du reste de la communauté internationale en sortant de l'État de droit. Ça, c'est pour la communauté internationale, mais aussi avec la volonté de restreindre qui est juif. Ça, c'est un autre problème avec le monde juif non orthodoxe. Je ne peux pas vous dire que tout de suite, le gouvernement Netanyahou va changer son fusil d'épaule avec les résolutions du Congrès sioniste. Ce ne sera pas le cas. En tout cas, il voit qu'il y a un message qui est venu de la diaspora. Les manifestants qui sont opposés en Israël à ces réformes, c'est pas des réformes, c'est transformations judiciaires, passant d'un état de droit à un état libéral, ont bien reçu
le mouvement. Ce changement de régime.
Voient qu'ils ne sont pas isolés et que le monde juif, une partie du monde juif est aussi derrière eux. Donc ça aussi, c'est un message très important. Et maintenant, concrètement, les résolutions qui sont passées vont réorienter du budget dans le sens de l'éducation, avec une éducation beaucoup plus, dans le monde juif, une éducation beaucoup plus encore portée sur l'attachement à la démocratie, à l'état de droit. Et effectivement, à part les résolutions dont j'ai parlé, qui réaffirment qu'Israël doit rester un état juif et démocratique, il y a eu aussi une résolution, mais j'étais pas dans cette commission, qui effectivement portait une condamnation très franche sur la volonté de changer les règles du jeu sur l'état de droit par rapport à la Cour suprême.
D'accord. Donc il y a... Alors, je vous remercie, parce que là on est en train de dépasser allègrement le temps qu'il nous a imparti. Ça a été très clair, on a bien compris. Et je vous remercie d'avoir participé à notre émission, Alliance Sion Grammartz, et d'avoir répondu à nos questions. À bientôt sur Radio Shalom.
À bientôt, Ziran, merci.
Alors, bonne semaine à nous tous et à toutes. C'était Paul Ouzimi Yerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.